dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et avant de retrouver notre invité qui patiente en ligne de Conakry, nous vous rappelons que ce soir, nous allons parler du Gabon avec le scandale des réductions fiscales dont auraient bénéficié des entreprises françaises d'après la société civile gabonaise. Est-ce que ce scandale restera sans suite? Nous allons donc en débattre le temps de retrouver notre invité.
Dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Bonsoir Alseni Sall.
Africa Radio, bonjour.
Chargé de programme à l'OGDH, c'est l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. Vous êtes en direct de Conakry, merci d'être avec nous. Alors le président Alpha Condé sera investi mardi prochain pour son troisième mandat, bien que l'opposition conteste toujours sa victoire à la présidentielle du 18 octobre. Alors Monsieur Sall, comme le gouvernement, est-ce que vous vous préparez à cet événement?
Tout d'abord, merci de m'avoir invité à votre radio. C'est un honneur pour moi de prendre part à la parole dans cette radio. Par rapport à l'investiture du président Alpha Condé, comme vous le savez, hier, l'humanité a célébré le 62e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et du coup, la société civile l'a célébré ici en partenariat avec le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme, ainsi que les membres du gouvernement. Donc nous, vous savez quand même, la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme constitue aussi un espace pour la société civile de relever ses préoccupations par rapport aux atteintes et aux violations des droits de l'homme qui ont été commises pendant l'année en cours.
Et donc vous ne vous sentez pas concerné par cet événement? Ou
non,
est-ce que vous vous préparez?
Non, on n'est pas concerné par cet événement. Comme vous le savez, et depuis octobre 2019, la société civile et se bat contre un troisième mandat pour le président Condé qui avait prêté serment sur la base de la constitution de 7 mai 2010. Et donc, du coup, et vous savez que la Guinée est partie à la charte africaine sur la démocratie et les élections. Donc, cette charte ne permettait pas au président Alpha Condé de faire un troisième mandat. Et depuis octobre 2019, il y a un combat qui est engagé dans ce sens. Et nous avons enregistré à l'occasion plusieurs violations de droits de l'homme que nous avons dénoncées. Et jusqu'ici, il n'y a pas du tout de procédure judiciaire permettant de clarifier cette situation.
Et justement, à ce sujet, M. Alseni Sall, les formes de l'opposition UFDG prévoient une marche lundi, veille de l'investiture du président Condé, contre ces graves violations, selon elle, des droits de l'homme. Le FNDC projette aussi de manifester le 15 décembre, de même que l'UFDG de Seydou d'Alain Diallo. Craignez-vous que le jour de l'investiture de Alpha Condé soit finalement une journée de violence forte dans votre pays?
Tout à fait, parce que évidemment nous avons l'expérience d'avoir vécu ce genre de situation où nous avons souvent enregistré des violences qui ont débouché à des violations des droits de l'homme. Évidemment, ça sera une journée vraiment à surveiller. Il y a quand même des craintes à l'air qu'il y ait des violations encore des droits de l'homme ce jour, d'autant plus que depuis 10 ans, et nous nous battons pour qu'il y ait des procédures judiciaires par rapport aux violences qui sont commises à l'occasion des manifestations politiques en Guinée. Et très malheureusement, la plupart de ces procédures, je dirais que plus de 90% de ces procédures sont encore pendantes devant la justice guinéenne.
Et ne sont pas résolues. Néanmoins, est-ce qu'il y a moyen de désamorcer la situation d'ici mardi?
Écoutez, nous estimons aujourd'hui en Guinée, aujourd'hui, il faut une meilleure implication, notamment de la CEDEAO et de l'Union africaine, des Nations Unies, en tout cas de la communauté internationale, pour désamorcer un peu la crise. Parce que toutes les institutions républicaines en Guinée ont démontré leurs limites pour faciliter le dialogue. Aujourd'hui, le dialogue est rompu entre la classe politique et le gouvernement. Et donc, du coup, c'est ce qui crée cette situation. Donc, il faut aujourd'hui, forcément, nous estimons qu'il faut une meilleure implication de la CEDEAO et notamment et de l'Union africaine, ou pourquoi pas des Nations Unies pour changer la donne.
L'opposition guinéenne et le FNDC avaient salué les déclarations récentes de Macron selon lesquelles il n'a pas félicité le président Condé pour son troisième mandat parce qu'il a modifié la constitution pour son seul avantage. Souhaitez-vous que la France, souvent accusée, à tort ou à raison, pas certain de jouer le médecin après la mort, s'abstienne désormais de tout commentaire dans votre pays ou plutôt s'implique davantage et aille plus loin?
Nous estimons qu'aujourd'hui, quand même, la France, au-delà des déclarations, devrait encore agir davantage pour prévenir les violences, parce qu'elle est présente en Guinée, elle voit ce qui se passe, mais nous estimons qu'elle ne s'implique pas davantage pour désamorcer les différentes crises que nous sommes en train d'arrêter dans ce pays depuis un certain temps. Et je pense qu'il faut aujourd'hui dépasser les déclarations, les messages, pour aller directement sur le terrain, pour écouter les acteurs politiques, mais aussi proposer des solutions permettant de sortir de la crise actuelle dans laquelle nous vivons. Parce que, évidemment, même si certains pensent que ce n'est pas une crise, nous estimons que c'est une crise qui pourrait générer des violations des droits de l'homme. Parce que aujourd'hui, depuis un certain temps, vous savez quand même, en Guinée, les manifestations politiques sont interdites. Et notamment, les gens sont en train de se servir du Covid-19 pour restreindre la liberté des gens. Et donc, alors que toutes les institutions ont démontré leurs limites, et le droit des manifestations, c'est un droit constitutionnel.
Merci.
Et il constitue le moyen le plus sûr pour l'opposition de se battre.
En deux mots, Monsieur Sall, oui. Malgré tout, Alpha Condé devrait être investi mardi. Quelles sont les urgences auxquelles il doit s'attaquer très rapidement?
Le plus urgent aujourd'hui, vraiment, nous pensons que c'est le procès du 28 septembre, c'est la lutte contre l'impunité et notamment le processus de réconciliation nationale pour permettre aux Guinéens de travailler ensemble.
Merci beaucoup, Alseni Sall, chargé de programme à l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, en ligne de Conakry, en Guinée.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et 18h, bientôt 15 à Libreville et aussi ici à Paris, nous retrouvons nos invités pour parler de ce scandale financier qui a coûté au ministre de l'économie sa place au gouvernement, avec donc nos invités Nathalie Zemo, coordonnatrice nationale Gabon du mouvement citoyen international Tournons la page à Libreville, Jonas Moulenda, journaliste gabonais en exil, et Meis Moussi, analyste spécialiste en économie. Bonsoir, vous m'entendez ?
Bonsoir.
Merci beaucoup à vous d'être avec nous dans ce débat. Le ministre de l'économie et de la relance, Jean-Marie Ogandaga, soupçonné d'avoir accordé des abattements fiscaux exagérés à deux entreprises pétrolières françaises, a donc démissionné. Est-ce que, Moussi, vous en savez un peu plus sur cette affaire et comment cela s'est réellement passé, vous qui êtes spécialiste en économie?
Alors, je suis spécialiste en économie, mais je ne suis pas dans le secret des décisions gouvernementales gabonaises.
Mais on sait que vous permettez l'expression, vous fouinez très souvent et arrivez parfois à tomber sur des informations crédibles. On ne sait pas très bien comment cela se passe. On voudrait savoir, est-ce qu'on en sait plus et ou qu'est-ce que vous savez ?
Ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'il y a eu un remaniement, ou pour reprendre les termes qui ont été employés, un réaménagement du gouvernement qui fait suite à une série d'abattements fiscaux vis-à-vis d'un certain nombre d'entreprises. On parle des entreprises françaises Total et Perenco, mais il y en a d'autres. Il y a également des entreprises gabonaises qui ont bénéficié d'un certain nombre d'abattements qui sont extrêmement curieux par leur montant, par leur nature, dans un moment où le gouvernement communiquait sur une meilleure collecte des recettes fiscales. Il y avait donc comme un double standard, c'est-à-dire d'un côté, on expliquait qu'il n'y avait pas assez d'argent et qu'il fallait collecter au mieux les ressources de l'État, et de l'autre, nous avions le ministre en charge de la collecte des impôts, le ministre de l'économie, qui exonérait quasiment à tout va sur un certain nombre d'éléments concernant la douane des sociétés de premier plan. Ça ne pouvait pas se comprendre et jusqu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Et d'ailleurs, moi, je m'interroge à titre personnel sur le fait que le ministre en charge de l'économie a démissionné, mais nous n'avons pas encore entendu ni le gouvernement, ni les chambres du Parlement, ni toutes les personnes intéressées au sein de la classe politique.
Ce qui me permet de dire que nous avons tenté d'avoir un représentant du gouvernement en vain, et lorsque nous avons pu parler à l'un d'entre eux, notamment à la chargée de communication et de la porte-parole du gouvernement, n'a pas souhaité participer à notre émission.
Donc vous venez de le dire, elle n'a pas souhaité participer à l'émission. C'est sa responsabilité. J'ai rien à dire là-dessus. Ce que j'observe moi en tant que citoyen gabonais, c'est que le gouvernement doit quand même aux citoyens gabonais qui sont les contribuables aussi la transparence sur les questions de cette nature.
On va revenir à vous, Monsieur Moussi. On va faire un tour de table en laissant les autres s'exprimer. Jonas Moulenda, vous êtes là ?
Oui, je suis là, je vous écoute.
Voilà, vous êtes journaliste en exil. On parle, il y a des montants qui sont communiqués, on ne sait pas s'ils sont exacts ou pas. Perenco aurait payé 150 millions contre une dette de 4 milliards 511 millions, alors que Total lui a payé 700 millions et non les 4 milliards de dettes. Est-ce qu'on a pu confirmer ces chiffres et a-t-on les éléments aujourd'hui qui permettent de penser que le ministre démissionnaire a reçu des rétrocommissions en échange de ces abattements fiscaux ?
Mais vous savez que ces abattements procédés de cette manière, c'est une corruption déguisée. Donc il n'y a d'aucun doute parce que naturellement il est coutumé de faire. Ce n'est pas la première fois que Monsieur Okandaga est cité dans des affaires louches comme
ça. Il est cité, mais est-ce qu'il y a des preuves ? Beaucoup de choses sont dites, mais est-ce qu'on a des preuves établies ?
D'accord. Tout est parti d'un rapport d'émission conjoint des douanes, du Trésor et des impôts qui rapportaient que 9 milliards de francs CFA des dettes des sociétés pétrolières que vous avez citées tout à l'heure, donc Total et Perenco, avaient été tout simplement annulées sur instruction du ministre Okandaga. Donc Perenco était redevable de la somme, vous l'avez dit, de 4,5 milliards de francs CFA. C'est la même somme aussi pour Total Gabon. Et ça, il y a eu juste 700 millions qui ont été versés. Or, ça devait être 4 milliards et demi.
Oui.
Donc, et ça, c'est lui qui était ministre au moment des faits, qui a donné des instructions. Maintenant, la grande interrogation aujourd'hui, puisque l'enquête est menée par la contre-gérance, qui est aussi déjà une procédure viciée, parce que la contre-gérance, elle n'est pas chargée des enquêtes économiques, c'est une police militaire. Donc, vous voyez déjà, à ce niveau, il y a un problème. Il a été contraint à la démission, c'est pas lui-même, il n'a pas démissionné de sa propre volonté. Il a été contraint à la démission, d'après les informations à ma possession.
Contraint à la démission par la présidence, la première ministre ? Parce qu'il y a eu un communiqué de la présidente annonçant sa démission, mais on n'indique pas les causes de ce départ du gouvernement.
On n'indique pas les causes, mais ça a un lien étroit avec ces abattements fiscaux qui ne relèvent pas de la légalité. Parce que lorsque on parle de l'abattement de ce type-là, je crois qu'il y a déjà un problème parce que c'est déjà comptabilisé. Donc lui, il vient au moment où la situation économique du pays est désastreuse, il procède à ces abattements, mais en contrepartie de quelque chose forcément.
On n'en sait rien, c'est vous qui le dites, mais le conseil...
J'ai discuté avec les enquêteurs, j'ai discuté avec les sources proches du dossier tout à l'heure, avant même l'émission, et qui ont confirmé justement ces montants faramineux.
D'accord, on va voir si une enquête va être effectivement ouverte, peut-être pour répondre à ces interrogations ou établir la vérité dans cette masse d'informations et de contre-informations qu'on reçoit de ce dossier. Madame Nathalie Zemo, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends.
Voilà, coordonnatrice.
Je vous entends parfaitement.
Oui, coordonnatrice nationale Gabon du mouvement Tournant la Page. On a entendu Marc Onah hier dans cette même émission dans la partie décryptage déclarer que la société civile a souvent alerté sur ce genre de pratiques, mais il n'y a jamais de suite. Souvent le dossier est classé. Est-ce que vous demandez aussi que l'enquête cette fois soit réellement ouverte, que le procureur se saisisse, et est-ce que vous pensez que ça va être fait cette fois? Madame Zemo, on ne vous entend pas.
Vous m'entendez?
Oui, allez-y.
Vous m'entendez mieux ?
Oui, allez-y.
Non, je disais que ce qui est certain, c'est que la moralisation de la République est vraiment...
Je suis désolée, Madame Zemo, je suis désolée. On va devoir vous rappeler pour participer à cette émission. Donc, raccrochez, on va vous rappeler, Madame Zemo, et on espère que la liaison avec Libreville, sera plus claire. Alors, je reviens à vous, Monsieur Meïs Moussi. Est-ce que cette fois, ce scandale va aboutir à quelque chose comme le souhaite la société civile ? Et vous disiez aussi que les Gabonais ont droit à la vérité.
Permettez-moi tout d'abord de rectifier juste quelque chose dans ce que vient de dire mon compatriote Jonas Moulinda. Selon le droit gabonais, qui est un droit hérité du droit français, il y a deux services de l'État qui sont en capacité de transiger sur les affaires financières. Ce sont la direction des impôts et la direction générale des douanes. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, par exemple, ne peut pas payer son impôt ou bien a une sanction fiscale d'un certain montant, il existe effectivement la possibilité légale d'aller auprès des services de la douane, aller auprès des services des impôts, de discuter le montant. Et c'est une prérogative des services des impôts et de la douane de réduire le montant. C'est le cas dans lequel nous sommes.
Permettez-moi juste de dire que c'est effectivement ce qu'avait déclaré fin novembre le ministère de l'Économie en affirmant que ces abattements ont été accordés en raison de l'incapacité de ces sociétés de payer ces sommes et que cela a été fait en conformité et dans le strict respect du code des douanes.
Oui, alors il faut bien qu'on soit d'accord. Ce n'est pas parce que je suis en train de dire que c'est prévu par la loi qu'il n'y a pas un problème pour autant. Le problème se situe au niveau du montant de l'exonération. Lorsque vous quittez de 4 milliards à 100 millions, c'est comme si vous avez totalement annulé la charge fiscale qui était à la charge de l'entreprise. Et ça, c'est problématique parce qu'habituellement, sur les affaires de cette nature, on a rarement vu une baisse d'impôt, un effacement d'impôt de ce montant. C'est vraiment excessivement rare. Moi, personnellement, sur les cas sur lesquels j'ai eu la possibilité de travailler dans certaines entreprises, je n'ai jamais vu ça. Pour le reste, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai aussi de dire que les entreprises mises en cause n'étaient pas en capacité de payer. Je veux prendre l'exemple uniquement de l'une d'entre elles, la société Total, Gabon, qui est une société qui publie ses chiffres, qui est cotée en bourse et qui a récemment versé à ses actionnaires un dividende qui représente à peu près 5 à 6 milliards de francs CFA. Et derrière, il y avait une dette fiscale de l'ordre de 4 milliards. Donc si une entreprise, de mon point de vue, peut payer 5 à 6 milliards de dividendes, je pense qu'elle est capable de payer le montant qu'elle doit au service des impôts, au service des douanes, quitte à ne pas payer son dividende. Ça, c'est ma position.
Voulez-vous dire que Total serait peut-être de mauvaise foi ?
Non, je ne dis pas ça. Moi, j'analyse simplement la capacité financière de l'entreprise. Je dis qu'une entreprise qui peut payer des dividendes qui sont à la hauteur d'une dette fiscale peut tout aussi bien payer la dette fiscale, quitte à sacrifier les dividendes qu'elle doit verser. C'est un cas classique. Nous sommes aujourd'hui en période de Covid. Vous savez comme moi qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont eu des difficultés financières. Eh bien, il y a un grand nombre d'entreprises qui, pour faire face à ces difficultés, ont simplement annulé les dividendes qu'elles devaient verser à leurs actionnaires. Et c'est quelque chose qui est très courant. Donc, voilà ce que moi je dis. Donc, lorsqu'on m'explique que ces entreprises ne peuvent pas payer, j'ai quelques doutes. Et il appartenait justement au gouvernement, non pas de dire que les entreprises ne peuvent pas payer, mais expliquer pourquoi et ce qui motivait le fait que ces entreprises ne pouvaient pas payer.
Merci beaucoup, Maïs Moussi. Oui, on va revenir à cette question juste après une courte pause. Restez avec nous.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans le grand rendez-vous ce soir, nous débattons des réductions fiscales que des entreprises françaises du pétrole ont bénéficié et qui font l'objet de polémiques au Gabon avec nos invités, Jonas Moulinda, journaliste gabonais en exil et directeur de la rédaction du journal Matin d'Afrique en France. Et en France également, Meïs Moussi, analyste et spécialiste en économie. Et à Libreville, Nathalie Zemo, coordonnatrice nationale Gabon du mouvement citoyen international. Tournons la page. Madame, vous êtes de retour ?
Oui, je suis bien là. J'espère que vous m'entendez mieux cette fois.
Je ne suis pas sûre que c'est la ligne est meilleure que tout à l'heure, mais on va vous retrouver juste après avoir laissé quelques minutes à Meïs Moussi de terminer ses propos. Nous vous avons interrompu avant la pause, Meïs Moussi. Vous étiez en train de dire qu'il y a des entreprises qui ont dû annuler le paiement des dividendes à leurs actionnaires en raison de la pandémie de COVID-19. Et vous étiez également en train de répondre à ma question. Allez-y, terminez vos propos.
Donc, j'avais terminé sur le premier volet. Merci de me repasser la parole. Et sur le deuxième volet, vous demandiez est-ce que cette fois-ci, il va y avoir plus de transparence et les enquêtes, si elles existent, parce que finalement, on n'en sait rien, est-ce qu'elles vont aboutir ? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Parce qu'aujourd'hui, justement, au moment où je vous parle, il n'y a rien dans la communication officielle qui nous dit qu'il y a des enquêtes en cours sur un cas précis. Alors que nous sommes habituellement sur ces questions face à un gouvernement qui sait communiquer, parfois qui communique à outrance, et là, on ne dit rien. Donc, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose dont on ne sait rien et qui n'existe pas.
Est-ce que vous souhaitez néanmoins que la justice s'en saisisse, comme le souhaite Tournant la Page ?
Ah oui, évidemment, madame. L'argent dont on parle, c'est l'argent des contribuables. Si jamais l'argent du contribuable a été distrait, eh bien évidemment, il faut qu'on fasse la lumière là-dessus et sans aucune réserve.
Merci. Madame Zemo ?
Oui.
Oui, allez-y, Madame Zemo. Donc, j'étais en train de vous demander, est-ce que vous espérez que cette fois, la justice gabonaise, le procureur, va pouvoir se saisir de ce dossier ?
Évidemment, nous l'espérons enfin, parce que vous savez, aujourd'hui,
Je suis navrée, vraiment, madame, je suis navrée. Je ne sais pas si Edouard Ning, qui assure le côté technique de cette émission, va pouvoir trouver un moyen pour que vous participiez à cette émission. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. On va encore essayer à nouveau, madame, avec vous. Voilà, essayez de répondre, s'il vous plaît. Non, pas du tout. Donc, on va à nouveau essayer de vous rejoindre, Madame Nathalie Zemo. Monsieur Moulenda, vous m'entendez ?
Écoute.
Voilà. La société civile, disais-je, se plaint de ce que chaque fois elle réunit des éléments qui étaient les soupçons de mauvaise gestion, mais à chaque fois, même blocage de côté judiciaire, il n'y a pas de suite. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que cette fois le procureur ou la justice gabonaise, ou tout au moins le Parlement gabonais, puisse ouvrir une enquête ?
Bon, mais je crois que c'est même pas au Parlement qui revient la mission d'ouvrir une enquête. Il y a une justice qui est bel et bien là. Il y a le parquet de la République, il y a le parquet financier qui est là-bas. Donc il y a tous les mécanismes qui sont là pour pouvoir déclencher l'enquête. Déjà le procureur, d'après le code de procédure pénale, le procureur peut se saisir d'une dénonciation par une tierce personne ou par les journaux. S'il n'y a pas une plainte qui a été déposée, mais le procureur peut s'en saisir. Bon, maintenant, il faut reconnaître que
la société civile disait qu'elle fera son travail et qu'elle devrait déposer une plainte.
La société civile peut faire son travail, mais s'il n'y a pas une réelle volonté politique, ça ne peut pas avancer. Vous savez, il y a une chape de plomb qui recouvre les questions sur les enquêtes sur les crimes économiques ou les crimes de sang. C'est souvent des enquêtes qui font chou blanc, du fait un peu de l'interventionnisme ici de l'État. Vous savez que la justice est le bras séculier de l'État et à un niveau, il y a l'intervention, soit du président de la République qui est lui-même président du Conseil supérieur de la magistrature, ou alors des personnes tapies dans les organes du pouvoir qui ont une grande influence, qui nomment les magistrats. Il n'y a pas une certaine indépendance qui amènerait les magistrats ici à travailler librement. Vous voyez, c'est monsieur le ministre Ogandaga, le ministre de l'économie qui a démissionné. Bon, on s'attendait à ce qu'il y ait rapidement une procédure. Mais jusqu'à ce jour, il n'a pas été convoqué. Il n'a pas déféré la convocation. Il y a une convocation qui avait été déposée, puisqu'il était ministre, il avait une immunité. Donc, il ne pouvait pas tout de suite déférer la convocation. Il fallait d'abord qu'il démissionne du gouvernement. Donc, il est sorti du gouvernement. Il n'est pas député. Donc, il n'a plus d'immunité.
Mais certains, certains estiment que déjà le fait d'avoir démissionné, c'est tout un symbole, parce que jusque-là, on n'a pas assisté à cela et que cette démission est peut-être considérée comme un signal ou un avertissement du président Bongo à ses ministres et gestionnaires des biens publics.
Il y a eu le ministre des Mines, Tony Ondomba, c'est la même situation, même cas de figure. Il a été démis de ses fonctions, ou il a démissionné sous contrainte. Et après, au moment où il cherchait à récupérer son poste à l'Assemblée nationale pour se draper de cette immunité, il a été arrêté et il a été envoyé au mitard. Donc ce n'est pas la première fois. On a eu le cas d'Alain-Claude Bilibinze, qui est actuellement ministre, qui avait eu un problème pendant la période d'intercession et qui a été arrêté. Parce que, naturellement, tous les mécanismes de poursuite contre les hauts dignitaires de la République avaient été mis en place. Maintenant, en ce qui concerne Okandaga, tout le monde souhaite, dans l'immédiat, que la justice fasse son travail. Mais jusqu'où ? Est-ce que les feux de la justice vont éclairer jusqu'au bout de la rampe ? Moi, je me montre dubitatif vu les premières expériences. Vous avez vu le cas de l'ancien ministre Magloire Gambia, qui a passé 44 mois en prison pour le détournement des fonds publics et qui a recouvré la liberté après avoir payé une caution de 100 millions de francs CFA. Donc, il y a les autres qui sont en prison aujourd'hui et les dossiers sont vides. Moi, j'ai discuté avec les magistrats. Les dossiers sont vides parce que les procédures sont viciées et menées par des gens qui ne sont pas vraiment des orfèvres en la matière. Je vais vous parler de...
Très, très vite, Maïs, s'il vous plaît. Oui.
Oui. Maïs Moussina n'a peut-être pas bien compris. Je parlais de la contre-gérance. La contre-gérance qu'on appelle communément B2, c'est une police militaire. Donc, en pareille occurrence, ce n'est pas cette police militaire qui doit mener cette enquête. Il y a la PJ qui a un service économique donc, qui est aujourd'hui animé par des enquêteurs assermentés qui ont fait...
Excusez-moi, monsieur Moulenda, mais il y a d'autres personnalités qui sont passées devant cette fameuse B2, la Direction Générale de la Contre-Ingérence de la Sécurité.
Mais ça donnait quoi,
Brice
madame?
Lacruche y était en janvier, Léandre Zu aussi en septembre.
Mais je vous dis déjà, pour le cas de Brice Lacruche Alenga dont vous parlez, le dossier est vide. Vous pouvez vous renseigner, je peux vous donner les contacts des magistrats qui sont. Le dossier est vide. En fait, on accable les gens. Bon, naturellement, on a dit, mais sur la justice, c'est un terrain, le droit, c'est le terrain par excellence de la preuve. Or là, dans le dossier, il n'y a rien pratiquement. Et après, ça ressemble un peu à un règlement de compte entre membres d'une pègre. C'est souvent les gens au Gabon.
Merci. Nous essayons encore en vain d'avoir Nathalie Zemo en bonne qualité, ce qui n'est pas encore le cas. On essaye toujours, hein, Madame Nathalie Zemo, de tourner la page à Libreville au Gabon pour participer à cette émission. Alors, Maïs Moussi, on parle depuis le début de cette émission et quand on lit les journaux gabonais, on écoute les Gabonais, on parle du laxisme du pouvoir, de ce que vous appelez manque de volonté politique de lutter contre la corruption, mais on ne parle pas beaucoup de la responsabilité de ce qu'on peut appeler les présumés corrupteurs. Que sont ces entreprises, s'il est vrai effectivement que ces entreprises ont bénéficié des abattements fiscaux en échange de quelques grâces aux personnes qui en ont décidé?
Alors, évidemment, mais le problème, encore une fois, madame, c'est que pour l'instant, nous n'en savons rien. Nous savons simplement qu'il y a eu des abattements fiscaux exagérés. Nous ignorons s'il y a eu une contrepartie à cela, mais qu'à cela ne tienne. La législation gabonaise en l'état condamne aussi bien le corrupteur que le corrompu, et même va au-delà, puisque la personne qui fait du recel de la corruption est aussi injusticiable, qui peut être entendu dans une affaire. Ce que moi je constate de façon générale, c'est qu'il existe un dispositif global pour faire en sorte que la répression contre la corruption soit la plus efficace possible au Gabon. Et ce dispositif ne marche pas. Parce que nous parlons des tribunaux, mais les tribunaux arrivent en fait en dernier recours. Avant les tribunaux, nous avons une agence nationale d'investigation financière qui traite de tous les sujets de blanchiment d'argent et est censée chercher l'origine des fonds, de l'argent qui circule sur les comptes bancaires. Nous n'avons jamais vu un rapport de cette institution. Nous avons l'Agence nationale de lutte contre la corruption.
Les rapports sont remis au président de la République.
Les rapports de la Cour des comptes sont remis au président de la République et sont, pour certains, parfois publiés. Mais l'Agence nationale d'investigation financière, c'est l'équivalent de Tracfin en France, est censée faire un rapport d'activité que nous ne voyons pas. Il en est de même pour l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Où sont les rapports d'activité? Qui sont, depuis que ces agences existent, des personnes qui ont été visées par des affaires, des dossiers, des poursuites et qui ont terminé au parquet? Nous n'en savons rien. Pourtant, ce sont des agences qui aspirent une bonne partie des budgets de l'État. Et au-delà de ça, nous avons au sein même de l'administration les différents corps d'inspection qui sont là pour s'assurer que les règles d'orthodoxie et les règles en matière procédurale dans les services soient appliquées. Là aussi, nous voyons qu'il y a des défaillances parce que à la fin de la journée, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'à peu près tous les 6 mois, nous avons de hautes personnalités, y compris des membres du gouvernement, qui sont accusés des faits de corruption.
Merci.
Mais systématiquement, depuis maintenant 2 ou 3 ans, et à chaque fois, on n'interroge jamais la responsabilité du Premier ministre, on n'interroge jamais la responsabilité du Président de la République qui les choisit.
Merci beaucoup, Ms. Moussi. Cette fois, on espère que c'est vraiment la bonne avec Mme Nathalie Zemo. Rebonsoir, Madame, vous êtes là? Madame Zemo? Allô, Madame Nathalie Zemo?
Allô?
Oui, madame, vous me recevez?
Je vous reçois, mais je ne sais pas si vous me recevez.
Nous vous recevons, madame, parfaitement. Alors, on a beaucoup avancé dans le débat. Est-ce que la société civile envisage de porter une plainte porter plainte dans le cadre de cette affaire?
Pour l'instant, on dirait que ce n'est pas à l'ordre du jour. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que Tournons la page Gabon a fait une campagne aujourd'hui, cette année, justement, sur le respect des procédures judiciaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a présomption d'innocence, mais les informations qui circulent permettent quand même de mettre en évidence l'urgence qu'il y a à faire une enquête sur cette affaire, puisqu'on parle d'abattement de l'ordre de 90% par rapport au chef de redressement. En général, dans une procédure de redressement fiscal, c'est sur les pénalités qu'on peut concéder aux entreprises de l'abattement et non pas sur le principal. Donc c'est vrai que beaucoup de questions sont soulevées derrière. Et en plus, vous savez qu'au Gabon actuellement, nous avons au moins 4 ministres en prison pour des problèmes justement de détournement de deniers publics.
Et pour ce cas précis, madame, nous, on entendait la société civile se plaindre de ce qu'elle arrive à réunir souvent des documents, des preuves de ce qu'il y a des vrais soupçons de détournement, mais à la fin, la justice ne se saisit pas de ces affaires. Est-ce que vous pensez que cette fois, il en sera autrement?
Écoutez, j'ai entendu M. Maïs Moussi tout à l'heure citer toutes les institutions, les administrations qui sont tout à fait compétentes pour déclencher des enquêtes dans ce genre de cas de figure. La société civile ne peut pas se substituer au ministère de la Justice, la société civile ne peut pas se substituer à la commission contre l'enrichissement illicite, etc. Je ne peux malheureusement pas définir ce qui va se passer. Évidemment, notre souhait, c'est que la justice soit moralisée, simplement moralisée, pour que les citoyens gabonais puissent mieux profiter des richesses nationales, plutôt qu'on soit détournés par des personnes qui sont supposées servir.
D'accord. On va dire des personnes présumées détournées, puisque pour l'instant, ce sont de soupçons et une enquête n'est pas encore ouverte, disiez-vous, d'ailleurs, et on ne sait pas encore dans quelles conditions ces abattements fiscaux ont été accordés à ces 2 entreprises françaises à 18h, bientôt 45, ici à Paris et à Libreville, à Franceville. Nous allons marquer une toute petite pause et on se retrouve pour la conclusion de ce débat.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avec avec nos invités Meïs Moussi, analyste spécialiste en économie, Jonas Moulenda, journaliste gabonais en exil, et Nathalie Zemo, coordonnatrice nationale Gabon du mouvement citoyen international Tournant la page, que nous avons à nouveau perdu et qu'on espère avoir dans un instant. Jonas Moulenda, alors, quand on écoute la Nathalie Zemo de la société civile, et vous aussi d'ailleurs, on a le sentiment que l'enquête judiciaire est vraiment improbable, peut-être impossible. À ma connaissance, les entreprises concernées ne se sont pas encore exprimées. Le gouvernement, lui aussi, ne veut pas s'exprimer. Nous avons tenté en vain d'avoir un représentant du gouvernement dans cette émission. Ils n'ont pas souhaité participer. Comment établir finalement la vérité autour de cette affaire ? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit pour rien au final ?
Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est parti, je vous ai dit, d'un rapport des missions conjointes des douanes, du trésor et des impôts. Donc, ces institutions sont sérieuses.
D'accord, mais je parlais de la suite. Voilà.
La suite, justement, c'est ce que disait le cocktail de l'impunité qui est tout simplement décapant au pays. Parce que ce n'est pas la première fois, évidemment, les gens émettent des réserves parce qu'on se dit que ce sera encore du bruit, du tapage pour rien. Après, il n'y aura pas de suite. Donc, les gens, aujourd'hui, les Gabonais sont des chats échaudés qui craignent l'eau froide. Il y a eu beaucoup d'enquêtes, comme je l'ai dit en termes de notre discussion, des enquêtes qui ont été annoncées à grands coups de cymbales, mais après qui ont fait chou blanc. Tout simplement parce qu'il y a des interventions au sommet de l'État, on veut protéger telle personne. Bon, c'est compliqué. Donc, moi, en tout cas, je ne vois pas une issue escomptée à cette procédure.
Vous êtes pessimiste.
Voilà, dès lors qu'il y a toutes ces interventions, est-ce qu'il y a une réelle volonté aujourd'hui ? Parce qu'il faut reconnaître que le Gabon veut faire bonne figure auprès des institutions financières internationales, comme le FMI, qui prête souvent de l'argent. Donc il faut essayer de faire des arrestations à grands coups de cymbales pour donner l'impression ici qu'on est devenu héros cornélien, qu'on va sanctionner les corrupteurs, les détourneurs de fonds publics. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est rangé dans les tiroirs de l'oubli. Vous verrez que ces messieurs, on va peut-être l'envoyer au mitard pour quelque temps, comme on l'a fait avec...
Le temps d'oublier l'affaire.
Voilà, le temps d'oublier, après il ressortira. Regardez, le ministre du pétrole, monsieur Mbumba Noël, il a été sorti, il était incarcéré en même temps que Brice Lacruche Alenga, l'ex-directeur de cabinet du président Ali Bongo. Mais il a recouvré la liberté et pourtant il a reconnu
son implication. Monsieur Moulenda, il y a quand même des efforts. Vous-même, vous venez de parler des ministres qui ont été arrêtés, même s'ils sont ensuite libérés. Il y a des hauts fonctionnaires de la présidence qui ont été arrêtés pour détournement. Le maire de Libreville, de même que le directeur général de la marine marchande, aussi pour détournement. Il y a quand même une volonté peut-être manifeste depuis 2017 de la part du président Bongo de lutter contre la corruption.
Madame, cette volonté, j'accorderai une créance à cette volonté si les feux de la justice éclairaient jusqu'au bout de la rampe. C'est-à-dire que si on allait jusqu'au bout de l'enquête, que toutes les institutions judiciaires qui sont chargées d'enquête. Parce qu'au Gabon, le vrai maître des poursuites judiciaires, c'est le procureur. Donc il y a des dossiers qui sont présentés, des enquêtes préliminaires qui sont menées. Mais sauf qu'après, on dit qu'il faut libérer telle personne. C'est comme ça au Gabon. Moi, j'étais chef du service fédéral de justice. Je sais de quoi je parle. Donc ça, j'étais comme ça. Pour le cas de M. Okandaga, il n'y aura pas, il y a pas grand-chose à attendre. Parce qu'ils connaissent bien le système. Parce que on a parlé d'Okandaga aujourd'hui. Mais vous savez que pour une telle affaire, c'est toute une chaîne. Donc Okandaga n'est pas seul. Il faut qu'on entende le directeur du budget qui est là actuel, parce qu'au moment des faits, il était là, il a la signature, le directeur du budget, monsieur Fabrice Andjoa, qui est fils de Madame Branco. Il faut qu'on écoute aussi.
Oui, la présidente de la Cour constitutionnelle. Mais je suis désolé, monsieur Moulenda, on ne va pas parler des individus parce que, une fois de plus, ce sont toutes ces personnes bénéficient de la présomption d'innocence et il n'y a pas d'enquête judiciaire. Donc, je suis obligée de vous interrompre. On va écouter monsieur Meïs Moussi, mais avant, je partage avec vous ce message que nous recevons à l'instant de Madame Nathalie Zemo. Elle nous dit par WhatsApp que la ligne est complètement brouillée et qu'elle n'a pas de retour. Et elle s'excuse, chers auditeurs, auprès de vous et bien sûr auprès de moi. Mais en tout cas, on comprend que voilà, c'est la difficulté de la liaison qui ne permet pas d'écouter la société civile dans ce débat, et particulièrement donc Nathalie Zemo. Mais Moussi, ça, la conclusion à laquelle on peut aboutir, c'est qu'il y a comme un refus d'établir la vérité. Et finalement, qui a peur de la vérité au Gabon dans ces dossiers de mauvaise gestion?
Ben, les personnes qui la cachent. C'est une réponse assez simple et quasiment triviale. Mais moi, ce que je veux dire au moment où nous sommes en train de conclure, c'est que sur les affaires financières qui concernent l'État, la notion de transparence est une notion importante. Importante vis-à-vis des bailleurs, importante vis-à-vis des contribuables, et en fait, elle est importante dans la construction de la nation. À partir du moment où on ne fait pas la transparence, ça veut dire qu'on empêche aux citoyens de pouvoir avoir un contrôle au-delà du contrôle du Parlement sur ce qui est fait dans la gestion des affaires publiques. Et c'est la meilleure façon de faire le lit de toutes les affaires de corruption, d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. Et la transparence ne doit pas uniquement concerner les petites gens ou les personnes qui sont en déchéance dans le régime. La transparence doit concerner tout le monde, du plus petit travailleur au plus grand ministre, sinon le président de la République. Et je pense que les autorités gagneraient à être plus transparente, à mieux communiquer. Parce qu'on ne peut pas parler de plusieurs dizaines de milliards et n'avoir aucune communication officielle, si ce n'est la démission du ministre de l'économie, sur lesquels, naturellement, un certain nombre de soupçons, à tort ou à raison, se portent.
Mais d'accord, vous souhaitez qu'il n'y ait plus d'omerta dans ce domaine, mais il y a aussi le climat social qui est explosif. La trésorerie gabonaise connaît des difficultés et les syndicats se plaignent des conditions de travail des étudiants. Il y avait encore la grève cette semaine des étudiants de l'université Omar Bongo. Est-ce que la transparence aussi ne permet pas, n'est pas une obligation et un passage obligé aujourd'hui pour régler les difficultés de trésorerie de l'État gabonais?
La transparence est un passage obligé. Vous ne pouvez pas, dans un pays, ne pas payer les quelques centaines de milliers de francs CFA de bourse attendus par les étudiants et dans le même temps annoncer qu'il y a des difficultés économiques, au point où on est obligé d'échelonner cela, et dans le même temps annoncer qu'on a un ministre, on ne sait pas trop, qui a effacé quasiment 10 milliards de dettes fiscales.
Merci. Donc, beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous, Meis Moussi, Jonas Moulenda et Nathalie Zemo de Tournons la Page. On se retrouve dans un instant pour la fin de cette émission.